Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
En septembre 1971, paraissait chez Champs Libres un livre de Simon Leys intitulé « Les habits neufs du président Mao ». Comme l'enfant du comte d'Andersen auquel il empruntait son titre, le sinologue s'y employait à dénoncer l'imposture maoïste, le caractère répressif et fascisant du régime, ce à une époque où les intellectuels européens, français en tout premier lieu, avaient tendance à l'idolâtrer. 2 ans plus tard, paraissait « Ombre chinoise », rédigée au retour d'un séjour en Chine, puis en 1976 « Images brisées », un recueil d'articles politiques, nécrologiques ou polémiques. Peu après, Simon Leys, de son vrai nom Pierre-Ric Mens, était l'invité sur France Culture d'une après-midi de programme proposée par Claude Udolot. Après avoir retracé son parcours dans un autoportrait radiophonique émouvant, il participait à une table ronde consacrée à la situation politique de la Chine, alors en pleine crise de succession, un peu plus d'un an après la mort de Mao. Il y évoquait son amour d'un pays dont il connaissait parfaitement la langue, l'histoire, la littérature et les arts, et dont il savait transmettre la passion. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 janvier 1977.
Image brisée, page 189. Il ne saurait y avoir de mauvaises raisons pour s'engager dans les études chinoises. Et si, chaque année, c'est la ferveur maoïste qui nous amène une bonne moitié de nos nouveaux étudiants, eh bien, dans cette mesure, vive le maoïsme. Je serais d'autant moins enclin à les décourager que je retrouve chez eux, en partie, le point de départ de mon propre itinéraire. Simon Leys.
Le point de départ, en effet, de mes études chinoises, c'était en 1955. J'avais 19 ans, j'étais étudiant à l'université, je m'occupais nullement de la Chine, je ne savais rien de la Chine, mais je m'occupais d'un journal d'étudiants. Et à ce moment-là, j'ai eu une invitation pour aller en Chine, donc comme membre d'une délégation de la jeunesse et à titre de rédacteur de ce journal d'étudiants. Et j'étais absolument pas prêt à faire ce voyage en Chine. Oui, j'ai lu en hâte quelque chose, quelques bouquins juste avant de partir. Et alors pendant un mois, donc, nous nous sommes promenés en Chine, 10 jeunes types en 55. C'est une très belle époque d'ailleurs, 55. C'était une époque encore où il y avait un immense enthousiasme, il y avait une ferveur, une jeunesse, un sentiment de dynamisme créateur en Chine. Et alors pour moi, ça a été un choc absolument bouleversant, ce voyage. Je m'en souviens comme on se souvient d'un film qu'on a vu. C'est une succession d'images très belles, fascinantes, touchantes, exaltantes. Mais ce sont des images à 2 dimensions. C'est pas en relief. Justement parce que je faisais ce voyage comme un sourd muet, je ne savais pas parler la langue et j'avais un tel sentiment de frustration à ne pas pouvoir communiquer directement avec les gens. J'avais le sentiment qu'il y avait là un tel foisonnement humain, une telle richesse de choses à découvrir, à connaître, à comprendre, mais que tant que je ne comprendrai pas la langue, je ne passerai pas de l'autre côté, je n'entrerai pas à l'intérieur. Et cette frustration intense au cours d'un mois, jointe à un très grand sentiment d'enthousiasme et d'intérêt et de passion, m'a déterminé donc à apprendre le chinois. Et je ne l'ai certainement jamais regretté depuis. Mais alors, évidemment, les hauts moments du voyage, c'était des choses comme une entrevue avec Zhou Enlai, qui a bavardé avec nous pendant une heure. Et vous pouvez imaginer ce que c'est pour 10 jeunes types qui sont rien du tout, quoi. Ils ne savent rien à rien. À quel point ça peut être bouleversant d'avoir cette entrevue avec un homme comme Zhou Enlai, qui, évidemment... Alors, tout cela combiné, évidemment, faisait un mélange extrêmement capiteux. Mais je ne le renie pas, certainement. Du reste, à cette époque-là, c'était très impopulaire d'aller en Chine populaire. J'ai failli être envoyé de l'université parce que j'avais fait ce voyage. Et parce qu'à l'époque, ce que j'ai écrit au sujet de la Chine, et qui était très positif et très enthousiaste, et encore, je ne renie pas les choses enthousiastes que j'ai écrites à l'époque, car c'était une époque enthousiasmante. Ça, tous les amis chinois avec qui je bavarde et qui se rappellent de cette période disent la même chose, qu'à ce moment-là, on y croyait. C'est la grande différence d'avec aujourd'hui. Et la dernière visite que j'ai faite en Chine en 73, j'étais avec une collègue qui est née et élevée en Chine, qui n'a connu rien d'autre que la Chine jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle est sortie de Chine à l'âge de 25 ans. Et qui revoyait la Chine pour la première fois. Donc elle avait quitté la Chine au milieu des années 50 et elle la revoyait pour la première fois en 73. Et elle était absolument soufflée, estomaquée, de voir que rien n'avait changé. Elle avait connu essentiellement la Chine d'avant la libération. Elle était sortie juste après, peu après la libération. Et ce qui l'estomaquait le plus, ce qui la surprise, la façon la plus radicale, c'est que c'était la même chose. La même chose au niveau épidermique, ce que vous voyez quand vous flânez dans les rues.
Mais la Chine en construction, mais la Chine qui mange à sa faim.
La Chine en construction, la Chine qui mange à sa faim. La Chine qui mange à sa faim est quand même un énorme point d'interrogation. Je veux croire et j'espère et je souhaite de tout cœur que c'est un des plus grands accomplissements du régime actuel d'assurer l'alimentation adéquate de la population chinoise. Mais finalement, on n'en sait pas grand-chose quand même. Il y a cet énorme trou dans les calculs démographiques qui correspond à la famine qui a suivi l'épisode du Grand Bond en avant. Des chercheurs sérieux ont avancé des chiffres de 40 millions de morts à la suite des famines du Grand Bond en avant. Des chercheurs sérieux ont fait des travaux et ont montré, par exemple, qu'il y avait des cas de cannibalisme assez répandus en Chine, même encore à la fin des années 60. On a tant d'informations contradictoires sur ce sujet que même sur une question aussi fondamentale que celle-là, les Chinois mangent à leur faim, je n'oserais pas tirer immédiatement les conclusions aussi catégoriques que beaucoup d'autres personnes tirent. Je l'espère, je le souhaite de tout cœur. Et c'est certainement là-dessus que finalement que le régime tiendra ou croulera, je pense. Que c'est le critère ultime. Mais la période la plus dangereuse pour le régime a été un moment, la suite du grand bond en avant, où justement, quand le paysanat s'est trouvé affamé, on est arrivé au bord du chaos. À ce moment-là, le peuple chinois, qui est d'une patience infinie, peut à peu près tout endurer de la part de ses dirigeants. Il en a enduré assez pendant plus de 2000 ans. Mais quand vient la famine, quand ses dirigeants ne peuvent plus lui assurer cette survie matérielle de base, alors là, plus rien ne tient. On commence par piller les greniers d'État, etc. Et puis alors, de fil en aiguille, on arrive au chaos politique.
Quel est votre critère du chercheur sérieux ?
Les gens qui, d'abord, savent le chinois, savent la langue chinoise de façon à pouvoir utiliser les sources chinoises de première main, qui sont la presse chinoise, la presse officielle et, plus importante encore, la presse provinciale. La presse provinciale, il est difficile pour nous la procurer, quoique on se la procure quand même par le marché noir bien organisé à Hong Kong. Mais il y a surtout le système, le substitut à la presse provinciale, qui sont les émissions radio provinciales. C'est un travail énorme. Il faut enregistrer toutes les émissions des différentes stations provinciales. Et puis alors, c'est très fastidieux. Il faut tout entendre, tout éplucher et confronter les sources. Et alors, une autre source très importante, c'est interroger, parler avec les gens qui sortent de Chine. Et ça, c'est une source absolument, une source d'information absolument capitale. Ce sont les seuls Chinois avec qui nous pouvons parler, ce sont les Chinois que nous rencontrons hors de Chine. Ces mêmes personnes, si nous les rencontrons en Chine ne peuvent être que des porte-parole officiels du gouvernement. Ce n'est que hors de Chine qu'ils peuvent parler en leur propre nom et émettre alors un éventail très nuancé, très large et très subtil de réflexion, de critique, d'observation sur le système tel qu'il fonctionne.
On devient un China Watcher à ce moment-là.
Tout dépend du sens que vous donnez au mot China Watcher, c'est qui est un mot parfois qui a des sens assez obscènes. Quelqu'un le traduisait en disant les voyeurs, et c'est un terme qui dit assez bien ce qu'il veut dire. Tout dépend des motivations que poursuit la personne qui interroge et de la façon dont il interroge. Personnellement, l'analyse de l'actualité politique chinoise n'est pas mon métier et toutes les conversations que j'ai eues avec des Chinois à Hong Kong sont des conversations qui sont nées simplement sur la base de l'amitié et de rencontres fortuites, d'amis qui vous en font connaître d'autres, et alors de gens qui ont tellement de choses à vous dire et qui ont tant de passion et qui sont en même temps muselés, qui n'ont pas de tribune, qui ne peuvent pas se faire entendre. On se sent l'obligation et le devoir de prêter une voix à ces gens qui n'ont pas de voix et de donner une tribune à ces gens qui n'ont pas l'occasion de se faire entendre, d'être simplement leur traducteur et leur interprète, leur intermédiaire auprès d'une audience plus large.
Mais certains journalistes disent que si vous rencontrez ces gens-là, c'est parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez plus aller en Chine, par exemple.
Oui, ça c'est un point de vue très intéressant. D'abord, le journaliste qui a dit ça, je ne sais pas d'où il tient que je ne peux plus rentrer en Chine. C'est une question, personnellement, je n'ai plus fait de demande de visa depuis 73. Et d'après certains échos que j'ai reçus récemment, il semble bien que les possibilités pour moi de recevoir un visa sont loin d'être exclues dans le futur. Mais enfin, c'est une question dans laquelle je ne vais pas entrer pour le moment. La raison pour laquelle j'ai bavardé avec ces gens à Hong Kong, d'abord c'est parce que j'étais à Hong Kong et que je les ai rencontrés, mais ensuite parce que si j'étais retourné en Chine récemment, je n'aurais pu faire que répéter ce que j'avais déjà fait. Je sais d'avance qui j'aurais vu, ce qu'on m'aurait dit, ce que j'aurais fait, etc. en Chine. Donc ce n'est pas la peine de refaire une chose que j'avais déjà faite 7 ou 8 fois juste avant. Ce que les amis que je rencontrais à Hong Kong pouvaient m'apporter est absolument irremplaçable et personne d'autre ne pouvait me l'apporter. Et c'est précisément le complément à tout ce que j'avais dit et décrit avant. Ce que j'avais dit et décrit avant, c'est ce qu'un étranger peut voir et faire en Chine. Maintenant, ce que je voulais faire, ce que j'ai fait à Hong Kong, c'est dire ce que les Chinois ont réellement à nous dire au sujet de la Chine et qu'ils ne peuvent pas nous dire quand ils sont encadrés par les interprètes et par les officiels gouvernementaux.
Et que disent-ils?
Mais ils disent, justement, c'est là que le terme réfugié est tellement source à malentendu. Le terme réfugié est d'abord inadéquat parce qu'une partie d'entre eux ne sont pas des réfugiés. Il y a parmi eux des gens qui sont sortis avec des papiers en règle. Il y a des gens qui sont sortis avec des papiers en règle du côté chinois, mais pas de papiers en règle du côté Hong Kong. Et l'inverse, il y a des gens qui sont sortis avec des papiers en règle de l'un et de l'autre côté. Il y a des gens qui sont sortis avec des papiers en règle d'aucun des deux côtés. C'est un éventail extrêmement vaste et diversifié. Il y a des ouvriers, il y a des intellectuels, il y a des enseignants, il y a des étudiants, il y a des jeunes, il y a des vieux. Il y a des mécontents, il y a des opposants, il y a des gens qui regrettent la Chine populaire, il y a des gens qui demandent à retourner en Chine populaire après une expérience négative à Hong Kong. Donc, il y a une immense diversité que le terme réfugié qu'on veut coller dessus, l'étiquette commode qu'on colle dessus, cherche à oblitérer, à escamoter. Il y a une immense diversité, et c'est vraiment la diversité du peuple chinois, des gens de tous les âges et toutes les conditions, et avec donc des points de vue extrêmement variés sur le régime. Parfois des points de vue critiques, parfois des points de vue approbateurs. Il y a là une diversité. Mais ce qui les caractérise dans l'ensemble, c'est qu'ils parlent pour eux-mêmes. Ils disent ce qu'ils pensent. Chose qui n'arrive jamais en Chine populaire, qui est exclue en Chine populaire. Et là, nous avons du reste tant de témoignages, de documents. D'abord, il y a les documents officiels. Un document officiel qui a été publié maintenant en Occident. Vous le trouvez d'ailleurs dans le livre « Regard froid sur la Chine » qui est sorti récemment, un document très amusant, très intéressant, circulaire officiel du gouvernement chinois à tous les niveaux de l'administration sur la façon de traiter les étrangers, comment il faut se comporter à l'égard des étrangers. Ben là, c'est un document à lire, ça prend juste 2 pages, mais ça vous dit tout. Il faut empêcher que la population ait des contacts avec les étrangers et des contacts libres et leur dise ce qu'ils pensent. Ou les gens qui sont en contact avec les étrangers professionnellement doivent être formés pour cela. On les prépare, et ceci m'a d'ailleurs été recoupé par une chinoise, un écrivain très remarquable, dont je suis en train de traduire les œuvres pour le moment. Je crois que c'est la première grande œuvre littéraire qui a été produite par la Chine, au sujet de la Chine contemporaine. C'est une femme qui est sortie de Chine il y a 2 ou 3 ans et qui maintenant commence à écrire. Elle est écrivain et elle commence à écrire ses expériences de Chine populaire sous forme de romans et de nouvelles. Des documents absolument fascinants. Son nom est Chen Zhu aussi. Et elle a choisi la forme du roman et de la nouvelle justement pour exprimer cette ambiguïté. Ce qu'un Chinois a expérimenté en Chine au cours des années est tellement complexe, est tellement polyvalent, qu'il lui est impossible ou qu'il lui est difficile de s'exprimer d'une façon discursive, théorique. Pour nous, c'est facile d'écrire des essais sur la Chine. Qu'on soit maoïste ou anti-maoïste, c'est pas difficile. Parce que, de nouveau, c'est à 2 dimensions. Nous ne l'avons pas vécu, finalement. C'est pas viscéral chez nous. Ça reste, malgré toute la passion qu'on peut avoir, l'intérêt qu'on peut y avoir, c'est resté pour nous, hélas, un spectacle. Ce n'est pas une chose que nous avons éprouvée dans notre chair, physiquement, concrètement, quotidiennement. Pour les Chinois qui l'ont expérimenté, il n'y a pas moyen de réduire cela à un discours théorique. Et là, le roman, la nouvelle, la création littéraire est un moyen privilégié pour exprimer cette ambiguïté. Parce que dans le roman, dans la nouvelle, vous ne passez pas de jugement. Vous mettez des caractères en action, vous les mettez dans des situations et vous les voyez réagir à ces situations de façon diverse et paradoxale et complexe. Pour en revenir à mon point de départ, justement, dans une de ces nouvelles où elle décrit, qui part d'un incident vécu au moment où elle enseignait à l'université de Nankin, on avait annoncé que le groupe des journalistes qui était dans la délégation, la visite de Nixon, allait venir pour visiter Nankin. Et alors, d'abord, on prépare tout le monde à la venue de Nixon. On leur explique pourquoi Nixon vient en Chine. Il vient pour supplier qu'on lui accorde la paix. Nixon vient parce qu'il se sent aux abois et il n'a plus d'autre recours que de demander l'aide de Mao Zedong pour que Mao Zedong protège la paix, etc. Bon, pendant plusieurs mois, on leur ressasse ce thème. Et puis quand vient le grand jour, quand le lendemain, probablement, les journalistes vont arriver, plusieurs jours avant, les journalistes arrivent à Nankin, on commence à distribuer dans la population, dans les rues où les journalistes vont passer probablement, des petits questionnaires avec les questions possibles que les journalistes risquent de poser et les questions possibles et les réponses à fournir à ces questions. Donc tout le monde doit étudier plusieurs jours à l'avance les réponses qu'il faut donner aux journalistes. Et puis, pour surcroît de prudence, on fait savoir à tous les membres de l'université, dont Chen Zhu aussi, que ceux qui ont eu des connexions avec les États-Unis, ceux qui ont vécu aux États-Unis, comme c'est le cas de Chen Zhu aussi, qui parle anglais couramment, feraient mieux de rester à leur place ce jour-là, qu'ils n'aillent pas faire le malin, qu'ils ne se croient pas plus malins que les autres. En clair, ça veut dire rester à la maison. Et alors, Chen Zhu aussi et un ou deux collègues qui sont dans le même cas qu'elle prennent l'engagement formel que ce jour-là, ils n'iront même pas au marché, ils n'iront même pas faire leur marché, qu'ils resteront à la maison, qu'ils n'iront pas dans les rues pour éviter tout danger d'être en contact proche ou lointain avec des journalistes qui parlent la même langue qu'eux. Ce qui vous donne un peu une idée du type de contact qu'on a en Chine populaire.
Ça, c'est un exemple, mais plus profondément, on pourrait se poser la question de savoir comment les Chinois savent ce qui se passe en Occident. Et vous dites qu'il n'est pas nécessaire qu'ils apprennent autre chose que ce qu'ils savent, parce que, d'une certaine manière, ils savent tout.
Là, de nouveau, il faut distinguer les deux niveaux, comme toujours en Chine, il y a toujours deux niveaux. Le niveau officiel et le niveau réel, le niveau de la vie des gens, le niveau des mandarins et des bureaucrates, et le niveau du peuple, le niveau des dirigeants et le niveau des dirigés. Au niveau des dirigeants, c'est là que s'applique ce que j'avais écrit. Pour les dirigeants, ils savent tout parce qu'ils l'ont lu dans le quotidien du peuple et ils redoutent plutôt d'être exposés, d'être soumis à des vérités, ou plutôt à des mensonges, de leur point de vue, qui ne sont pas prévus par le catéchisme. Au niveau de la population, c'est beaucoup plus subtil. Il y a quand même un assez large degré d'information sur ce qui se passe dans le monde extérieur. Les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas bêtes, d'abord. C'est ça l'essentiel. Ils sont subtils. Et il y a quand même certains canaux d'information. Hong Kong, Canton est un canal majeur. Il y a quand même des dizaines de milliers de gens de Hong Kong qui vont visiter leur parentèle dans toute la province du Canton. Et alors, à partir de là, ça fait tache d'huile. Et ça fait quand même une information du monde extérieur. Puis il y a la radio aussi, les transistors. Il semble que les gens écoutent pas mal quand même les émissions venant de l'extérieur. Aux époques où le gouvernement a un contrôle plus strict, c'est évidemment une chose sévèrement réprimée d'écouter les radios étrangères. Mais à d'autres périodes, les contrôles se relâchent. Et puis alors, il y a eu des brusques périodes d'anarchie qui ont permis une liberté d'information assez grande. La révolution culturelle en a été une, par exemple. Ça, c'est un leitmotiv dans les conversations qu'on a avec des gardes rouges. Ils parlent de tout ce qu'ils ont appris au moment où ils allaient piller les bibliothèques. Durant la révolution culturelle, donc, on brûlait tous les livres. On allait, les écoliers, piller la bibliothèque de leur école, piller la bibliothèque de leurs enseignants, piller les bibliothèques des bourgeois de la ville où ils habitaient, et entasser tous les livres dans la cour de l'école ou dans un endroit quelconque, qu'ils gardaient soigneusement eux-mêmes. Eux montaient la garde devant ces piles de livres qui attendaient d'être brûlées. Comme brûler des livres n'est pas une chose si facile, ça ne brûle pas si vite et pas si facilement, il faut en faire un grand tas, attendre d'en avoir un grand tas, et puis y mettre l'essence, etc. Donc on attendait parfois plusieurs jours avant de mettre le feu aux nouvelles piles ainsi amoncelées, piles dont les gardes rouges avaient eux-mêmes la garde. Et alors, les gardiens en profitaient pour, la nuit, aller sur le tas, choisir les bouquins qui les intéressaient. Par exemple, quand il y avait des gars qui s'intéressaient surtout aux beaux-arts, des étudiants des beaux-arts, ils allaient piquer les livres d'art. Ceux qui s'intéressaient à la politique allaient publier des livres, etc., etc. Et à ce moment-là, ils ont lu des tas de choses dans des domaines très divers. Ils sont constitués pour eux-mêmes des espèces de petites bibliothèques clandestines qui leur ont permis une information très hétéroclite, très chaotique et diverse, mais curieuse et parfois très frappante. Très curieux de voir, par exemple, ça revient aussi chez plusieurs gardes rouges qui ne se connaissaient pas les uns les autres, c'est un leitmotiv aussi, l'intérêt qu'ils avaient développé pour Hitler, par exemple, et la période de la Seconde Guerre mondiale. On se demande, pour des jeunes gens, des jeunes gars qui avaient 15 ans en 66-67, c'est d'un autre monde et d'une autre époque, mais c'est extraordinaire et symptomatique de voir cette fascination pour le caractère et la personnalité de Hitler. Et une fascination très ambiguë. Avec, ils ne savent pas très bien qui est Hitler, mais ils ont l'impression que ça devait être un gars formidable, d'une certaine façon. Il y a là cette tendance fasciste qui est absolument extraordinaire, inquiétante et significative chez de nombreux, surtout parmi certains leaders de ces mouvements des gardes rouges au moment de la révolution culturelle.
Mais cette fascination, vous l'attribuez à quoi ?
Je pense, de façon générale, il me semble la réponse évidente, c'est un phénomène maoïste. Le phénomène, la révolution culturelle est quand même l'époque qui a permis ce culte absolument dément du leader suprême, le leader suprême dont on obéit toutes les directives quand on les comprend et dont on obéit toutes les directives même quand on ne les comprend pas. S'il y a un principe fasciste, c'est bien celui-là. Mais c'était le principe maoïste par excellence, celui qui avait été proposé par Lin Biao, qui est maintenant évidemment désavoué comme on désavoue tout Lin Biao, mais il ne faut pas oublier que la révolution culturelle n'a été rendue possible que grâce à Lin Biao. Sans Lin Biao, il n'y a pas de révolution culturelle. C'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Et là, je crois, j'en reviens de nouveau à l'analyse de Li Zhe, le fameux samizdat chinois, est absolument d'une lucidité éclatante. C'est que son analyse du système Lin Biao, c'est en fait une analyse du système maoïste.
Qui a été traduit en français sous le titre « Chinois si vous saviez ».«
Chinois si vous saviez ».
Alors vous parliez du moment où, pendant la révolution culturelle, on a brûlé les livres. Mais ça existait avant. C'est presque traditionnel en Chine, d'une certaine manière, non ?
Oui et non. C'est traditionnel, si vous voulez dire qu'on l'a fait il y a 2200 ans. C'est vénérable à cet égard-là. Mais enfin, cet épisode qui a eu lieu il y a 2200 ans est quand même un épisode qui est resté maudit dans les mémoires chinoises. Pendant plus de deux millénaires, c'est l'épisode de Qin Shi Huang, le premier unificateur de la Chine impériale, qui est une figure absolument d'une importance décisive et capitale, puisque c'est lui qui a fait l'unité chinoise, qui a donc eu un apport positif indéniable, puisque sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu de Chine. La Chine serait comme une Europe, ou si vous voulez dire inversement, l'Europe est une Chine qui n'a pas eu de Qin Shi Huang. Mais un personnage dont le gouvernement était tellement implacable, féroce et inhumain que sa mémoire a été maudite pour les millénaires qui ont suivi. Bien que beaucoup de ses recettes de gouvernement aient été adoptées par les dynasties successives, mais en les enveloppant d'une couche de sucre, en les accommodant d'une façon qu'ils rendent moins rébarbatifs et moins odieux pour la population. Mais alors, l'initiative pour laquelle Qin Shi Huang est resté illustre à travers les âges et a été stigmatisé à travers les âges, est justement cette entreprise qu'il avait faite de brûler tous les livres et d'enterrer vivant un groupe de lettrés de la capitale.
Et pourquoi brûler tous ces livres ?
Brûler les livres parce que les livres permettaient à la population de penser et que l'essentiel était, pour appliquer un vieux principe taoïste légiste, que ce qu'il fallait, c'est que la population lui fortifiait les muscles et lui vidait le cerveau, lui remplir le ventre et vider les cervelles. Et ce qu'il fallait, c'est un peuple robuste qui puisse fournir des paysans productifs, des soldats combatifs, mais surtout pas des gens qui pensent, surtout pas des gens qui réfléchissent, surtout pas des esprits critiques, qui, eux, alors, sont un élément de contestation pour le gouvernement impérial, qui seul détient tous les critères de vérité. Ce que vous avez, en fait, toute la formulation théorique du pouvoir de Qin Shi Huang, qui est un corpus de doctrine extrêmement élaboré, et qui est brillant philosophiquement, qui est, je pense, une des formulations philosophiques les plus éloquentes et les plus cohérentes et les plus brillantes qui aient jamais été faites du totalitarisme. C'est une analyse exacte des mécanismes du totalitarisme et comment ça doit fonctionner, quelles sont les conditions à réunir pour que cela fonctionne. Cette doctrine a fait extraordinaire, était reprise entièrement à son compte par le régime maoïste aujourd'hui. Il y a eu cette grande campagne lancée, commencée en 73, par un article absolument abasourdissant du quotidien du peuple, qui était intitulé « Qin Shi Huang a eu raison de brûler les livres et d'enterrer les lettrés vivants ». Et c'est une chose qu'aucun régime n'avait jamais osé faire auparavant. Il y a eu juste une aile fasciste du Kuomintang, les chemises bleues, qui, à l'époque des années 30, se revendiquer de Qin Shi Huang, mais c'est un des seuls cas que je puisse voir dans l'histoire chinoise récente d'un groupe politique qui se revendique délibérément de la politique légiste de la politique de Qin Shi Huang. Et ça a été l'originalité des maoïstes, du maoïsme, de réhabiliter la mémoire de Qin Shi Huang et de donner une signification positive à ces initiatives qui, traditionnellement, avaient été considérées comme atroces et odieuses.
Je reviens à Imageuriser. Oui. L'un des aspects les plus intéressants et les plus peut-être discutables de votre livre, c'est le fait que vous dites à plusieurs reprises, pour continuer dans la comparaison entre les époques, que lorsqu'il y a épanouissement culturel, il y a chaos économique, et inversement.
C'est un phénomène qu'on constate à plusieurs reprises dans l'histoire de Chine, c'est un phénomène qui est à beaucoup d'égards tragique et angoissant, de voir que on souhaite évidemment à la Chine, tout le monde souhaite à la Chine et les Chinois en premier lieu, que le pays puisse être prospère et uni. Il n'y a rien de plus redoutable que le chaos politique, parce que le chaos politique justement entraîne les exactions de la soldatesque, la guerre civile, la famine et tout ce qui s'ensuit. Mais le prix à payer chaque fois de l'unité de la grandeur impériale semble avoir souvent été une certaine stérilisation intellectuelle, à des degrés divers. Hein. Le degré maximum d'unité et d'ordre a été atteint sous des régimes totalitaires, comme le régime de Qin Shi Huang dont on vient de parler, et qui est un régime de stérilité totale au point de vue culturel. Alors vous avez des situations intermédiaires, l'époque des Han, deux siècles avant Jésus-Christ, deux siècles après Jésus-Christ. L'époque des Tang, depuis le début du 7e jusqu'aux toutes premières années du 10e.
Vous jugez sévèrement l'époque des Tang d'une certaine manière?
Non, certainement pas. L'époque des Tang est quand même un des tout grands âges de la civilisation humaine. Ça, il n'y a pas de doute. C'est un âge sublime à beaucoup d'égards, et pour la Chine, et pour l'humanité dans son ensemble. Mais il n'y a pas de doute qu'à l'époque des Tang, quand même, c'est une époque qui a connu une certaine orthodoxie. Ce n'est pas une période répressive, mais c'est une période où il y a quand même un certain conformisme. Tandis qu'il y a d'autres périodes de création exubérante, où il y a une diversité, une diversification dans les lignes de réflexion qui sont entamées ou poursuivies. La période des royaumes combattants, juste avant l'unification des Qin, qui est une période extrêmement sombre au point de vue politique, période de chaos total au point de vue politique, mais le plus grand âge philosophique qu'a connu la Chine, l'âge des 100 écoles, l'âge où la Chine a élaboré des réflexions philosophiques dans les directions les plus diverses et les plus créatrices. Il y a eu l'époque des Six dynasties, une autre de ces périodes de chaos créateur, époque absolument déprimante au point de vue politique, de nouveau, mais d'une prodigieuse sophistication culturelle. Les royaumes combattants donc s'achèvent au moment où Qin Shi Huang monte en scène, c'est-à-dire au 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc vers 220 avant Jésus-Christ, c'est le moment où il s'achève. Disons le 3e siècle, 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, la grande époque des royaumes combattants. Les six dynasties vont du 3e au 7e siècle, pratiquement. Une longue période de hiatus, de chaos, de rupture dans l'unité impériale. Comme je disais, période extrêmement déprimante politiquement, mais prodigieusement excitante culturellement. Quand nous arrivons à l'époque contemporaine, à l'époque moderne, ce qu'on a, c'est le même phénomène dans les années 20. Juste après la première révolution, l'établissement de la première république, une période absolument désolante, dont certainement personne ne souhaite le retour. Il faudrait être criminel pour souhaiter le retour de cette époque, quand on songe aux souffrances incalculables que cela a apporté à la population chinoise. Mais une période qui, au point de vue intellectuel, littéraire, artistique, a été une période d'intense expérimentation et de création. Vous voyez une période de jeunesse, d'ouverture, où vous voyez, au fond, tous les gens qui dirigent, qui donnent le ton à la vie culturelle chinoise, sont des gens qui ont 20 ans à peine, ou qui n'ont pas 30 ans. Et ce sont eux qui sont les créateurs, et qui sont des gens qui sont branchés, ouverts sur tous les courants intellectuels du monde entier, qui sont au fait de ce qui se fait partout dans le monde. qui sont des révolutionnaires authentiques et des esprits extrêmement profonds et riches d'une culture internationale.
Le premier d'entre eux, c'est Lu Xun.
Lu Xun, le premier d'entre eux, est le meilleur exemple de cette ouverture à tous les horizons du monde et en même temps de sens de ses responsabilités comme intellectuel révolutionnaire, comme critique du pouvoir. Et alors, on arrive à la République populaire qui accomplit enfin l'unité et l'ordre de la nation, qui met fin aux guerres civiles, qui rétablit qui met fin à ce chaos meurtrier, mais qui apporte aussi une stérilité dans l'ordre intellectuel. L'existence d'un Lu Xun en Chine populaire aujourd'hui est inconcevable. Je n'aime pas tracer de frontières trop précises entre la Chine ancienne et la Chine moderne, parce que précisément, ce qui est de prodigieux et de fascinant dans le cas de la Chine, c'est que la Chine est la plus ancienne civilisation vivante qui existe au monde. Quand on étudie la Chine ancienne, c'est pas comme si on étudiait l'Égypte ancienne qui est morte et à quoi un autre monde a succédé. Il y a une continuité entre la Chine ancienne et la Chine moderne. Il n'y a pas d'hiatus, il n'y a pas de rupture. C'est la même civilisation, c'est une métamorphose de la même civilisation, ce que nous voyons aujourd'hui. Donc je ne voudrais pas faire trop nettement tracer une ligne entre les deux. Mais il est certain que je ne m'occupais pas de politique. J'étais parfaitement apolitique à cette époque-là. Simplement, j'avais cet immense intérêt, sympathie et passion pour la culture chinoise. Et mon intérêt était assez exclusivement culturel. Je m'occupais de littérature et de peinture, principalement. Une des réflexions les plus riches qui existent sur l'art de peindre est celle qui s'est poursuivie en Chine au cours de... Il y a plus de 1000 ans de réflexions qui se sont poursuivies. Il y a des centaines et des milliers de traités différents de peintres sur la peinture. Ça fait une littérature en soi, un corpus de littérature théorique sur la peinture qui est fascinant. Donc la philosophie de l'acte de peindre. Pourquoi peint-on? Quelle est la signification de la peinture? On peignait pour se cultiver soi-même. On peignait par une forme de discipline morale et spirituelle. On peignait par une sorte d'hygiène spirituelle. Peindre, c'était se mettre en accord avec la création cosmique, avec la création universelle. C'était se mettre en état d'eurythmie, en état de consonance, de résonance avec le processus de la création cosmique. La peinture chinoise est au centre de la culture chinoise. C'est quelque chose, comme je disais, quelque chose de sacré et d'essentiel. C'est donc une chose à quoi ils tiennent de façon toute particulière. Mais c'est aussi une chose qu'il est très difficile de protéger en adoptant la terminologie du régime actuel. Et on ne peut la protéger qu'au prix de certaines falsifications, certaines hypocrisies qui sont fécondes et utiles, puisque ça permet de protéger les œuvres. C'est-à-dire que toute œuvre d'art en Chine, pour satisfaire l'orthodoxie maoïste, doit être présentée comme un reflet du génie créateur du peuple travailleur. Alors, vous montrez la Grande Muraille, ou vous montrez la Cité Interdite, bon, manifestement, il a fallu des milliers de travailleurs pour le bâtir, donc d'une certaine façon, bien que ça n'ait aucun sens en fait, on peut dire que c'est une expression du génie créateur du peuple travailleur. On peut imaginer effectivement des milliers de gens en train de suer pour coltiner des pierres, etc. Bien qu'évidemment, la conception de la Cité Interdite, l'empilement des pierres en soi ne signifie rien, c'est la vision, nouveau la vision cosmique qui s'est incarnée dans les pierres, qui signifie tout et qui, elle, n'a pas grand-chose à voir avec les pauvres gens qui devaient coltiner les pierres. Mais alors, quand vous arrivez aux peintures chinoises, qui sont, qu'on le veuille ou non, pour le meilleur ou pour le pire, une création, il faut bien le confesser, une création absolument élitiste, c'est le fait d'une toute petite minorité, d'une élite dirigeante, aristocratique, qui jouissait de conditions privilégiées au prix de l'oppression du grand nombre, ça il ne faut pas s'en cacher, c'est certain, c'était cette petite minorité bureaucratique qui dirigeait le pays, qui jouissait de tous les avantages de la culture lettrée, qui a produit cette peinture, et qui seul en jouissait, seul pouvait la collectionner et la comprendre. Et ça pouvait représenter peut-être, je ne sais pas moi, 1% de la population chinoise. Alors là, il est très difficile de présenter ça comme ces œuvres absolument éthérées, secrètes, qui correspondent donc à une activité tout à fait privée de cette élite aristocratique. Il est difficile de présenter ça comme des œuvres réalistes, expression de la créativité du peuple travailleur. Mais si on ne le présente pas dans ces termes-là, on n'a pas le droit de les conserver. Cette peinture dont je vous parlais à l'instant, si belle et si riche, qui est une culture spirituelle, une culture personnelle, l'envers de la médaille, c'est qu'elle a, elle a opprimé, en un sens, elle a refusé de reconnaître l'existence de tout un art populaire, extrêmement riche et savoureux, et à qui elle n'a pas accordé droit d'existence, dont elle n'a pas enregistré l'existence dans les textes écrits, dans l'historiographie. Mais nous savons, à toutes les époques, on a peint les temples, on a peint les édifices de la collectivité de façon extrêmement populaire et vivante. Il y a une création de peintres artisanaux non lettrés, qui étaient seulement des peintres professionnels, méprisés des lettrés, et qui étaient riches et savoureuses et créatrices aussi. Et que la Chine populaire a justement remise en valeur. Il faut la remettre en valeur, et c'est juste et équitable.
L'autre aspect de vos recherches, c'est la littérature.
Oui. La littérature, d'un côté, la littérature moderne, c'est-à-dire la littérature justement qui s'est développée au cours de cette période très chaotique de la Première République.
Avec Lu Xun.
Avec Lu Xun, principalement. Et alors, je m'intéresse aussi à différents aspects de la littérature classique. La prose, Han en particulier, l'historiographie, que je lis non pas comme document d'histoire, mais comme œuvre littéraire. Je travaille sur les vies exemplaires de Sima Qian, un historien donc, de l'époque des Han, qui est aussi un des plus grands écrivains de la prose chinoise classique. Et je m'intéresse aussi à certains domaines de la poésie classique, en particulier un type de poésie qui est la poésie dite à chanter. Sima Qian, ses vies exemplaires, il y a 70 biographies qui viennent à la fin de son monument. Ce que Sima Qian avait ambitionné de faire, c'était en fait une encyclopédie de la Chine, traiter de tous les aspects de la culture chinoise, de son histoire, des institutions, de la pensée, depuis les origines jusqu'à son époque, ce qui faisait déjà 2000 ans à son époque. Donc c'est une encyclopédie de la culture chinoise. Et la dernière partie sont 70 biographies, ou 70 vies exemplaires, où il passe en revue, en fait, tous les divers aspects de la condition humaine. Ce dont il traite dans ces vies exemplaires sont les philosophes, les poètes, les marchands, les étrangers, les bouffons de cour, les bons bureaucrates, les mauvais bureaucrates, les chevaliers errants, tous les types d'humanité possibles et imaginables sont représentés là-dedans, saisis dans des attitudes caractéristiques et exemplaires. C'est une espèce de miroir de la condition humaine, tel qu'un Chinois pouvait l'avoir il y a 2000 ans, et en réfléchissant sur ce que lui avait proposé 2000 années d'expérience antérieure. Et alors, parce que c'est une œuvre littéraire, admirable point de vue, qualité de la prose et procédé d'expression littéraire, ça se lit autant de romans, ces vies exemplaires sont devenues pour l'imagination et la sensibilité chinoise un peu, disons, ce que dans le monde anglo-saxon, la Bible et Shakespeare sont devenus. C'est-à-dire que dans toute situation qui vous arrive concrètement dans la vie, vous pouvez faire référence à une parole d'un caractère de Shakespeare ou à un épisode biblique. Vous avez ces métaphores, ça vous propose ce bagage de métaphores à travers lesquelles vous pouvez déchiffrer et lire ce qui vous arrive à vous-même. Mais c'est à cela que correspondent dans l'ensemble les biographies de Sima Qian.